Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâti Santé, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
Eh bien voilà, notre dernière interview arrive, et toutes les bonnes choses ont une fin, donc c'est la seconde journée, nous sommes le 11 décembre, porte-maillot, édition 2024 du CIMI. On va finir sur une note un peu plus politique, ça va nous faire un peu de bien, d'envoyer un peu de bois dans ce contexte, on va dire, un peu singulier, voire sévèrement chahuté. Et d'ailleurs, c'est symbolique parce que j'aime bien finalement conclure ma journée d'émission avec lui. Il vient souvent nous voir, il nous fait le plaisir d'être avec nous. Jean-Philippe Dugoin-Clément, bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président de la région Île-de-France, président de l'établissement public foncier, président de Grand Paris Aménagement. Vous êtes également le maire de Mennecy. Merci d'être avec nous. Je ne peux pas résister parce qu'on parle souvent politique, pas forcément. Désolant, hein, ce qui arrive, non ? Première réaction, on a vu un spectacle à l'Assemblée nationale désolant, on peut dire plein de choses. Le gouvernement Barnier, qui avait présenté quand même des signaux plutôt positifs, notamment à l'égard du logement, vous connaissez bien, parce que vous êtes proche de Valérie Létard, une très bonne ministre, qui a fait d'ailleurs l'unanimité parmi les acteurs privés comme les acteurs publics. Une dame de l'immobilier qui connaissait bien son sujet, qui avait bossé en son temps également avec Jean-Louis Borloo dans le Valenciennois, qui connaît bien le sujet. Eh bien, les éléments qu'elle nous avait indiqués, Valérie Létard, étaient plutôt positifs, notamment, je pense au PTZ, parce qu'il était une mesure iconique, élargie à tout le territoire, et patatras, motion de censure avec un mariage contre nature entre LFI et la gauche, unis dans le même combat, faire tomber le gouvernement Barnier. Faut-il y voir, Jean-Philippe, un signal assez stressant de la classe politique actuelle, notamment au Parlement, ou pas ?
Déjà sur Valérie, bon, je dis ça pas parce que c'est une proche, mais parce que c'est effectivement le cas. En 3 mois, elle a fait plus que ses prédécesseurs en 5 ans.
C'est clair.
Déjà, c'est la première fois qu'on avait pour le logement un ministre de plein exercice, c'est-à-dire que le logement redevenait, en tout cas depuis 2017, quelque chose de central, d'important politiquement. Elle avait réussi sur le PTZ, sur la RLS pour les bailleurs sociaux, sur les donations, à obtenir des avancées importantes. Tout ça a été blackboulé avec le budget, sur une alliance des extrêmes qui a au fond une seule logique, c'est d'essayer de bordéliser le pays pour provoquer le chaos et une élection présidentielle anticipée.
Exactement.
Alors après, il va bien y avoir un nouveau gouvernement. J'espère humainement et surtout en termes de qualité et d'impact de travail que Valérie fera partie de ce gouvernement et sera reconduite dans ses fonctions. Après, je ne suis pas devin et je ne peux pas le deviner.
Vous pensez qu'on a l'espoir de pouvoir conserver Valérie Létard à la tête des logements ?
Il faudra bien qu'il y ait un gouvernement et il ne peut pas y avoir de gouvernement s'il n'y a pas une base du socle commun actuel. Donc, ça veut dire que quelques ministres actuels repartiront. Il y aura une part de turnover. La question est de savoir si ce socle commun arrive à s'élargir, ce qui pour essayer de tenir plus de 3 mois ou s'il n'y arrive pas. Mais je pense qu'un certain nombre de ministres seront reconduits et j'espère sincèrement que Valérie Létard en fera partie. Sur ce que vous avez dit et que je partage intégralement, c'est dramatique. Le spectacle qui a été donné, c'est quoi ? C'est on donne l'impression au monde que la 6e puissance économique mondiale est incapable au Parlement de voter un budget, que son pouvoir exécutif n'est pas capable d'imposer un budget. On rentre, par rapport aux investisseurs internationaux, sur une image qui est absolument déplorable et qui crée de l'incertitude. Créer de l'incertitude, c'est ralentir des investissements, c'est risquer une hausse des taux d'intérêt. Et puis sur le plan intérieur, l'image qu'on donne aux Français, c'est de dire, mais on a des gens qui ne se parlent pas, qui ne s'aiment pas. On n'est pas obligé de s'aimer pour travailler ensemble dans la vie. Vous n'êtes pas obligé d'aimer vos collègues de travail. Mais il y a des fois où il n'y a pas le choix. Il faut travailler ensemble, mettre son mouchoir dans sa poche.
C'est un peu
d'ego.
Du compromis, du consensus, c'est quoi ?
Mais qu'on ne fasse pas de compromis ou de consensus quand le système ne l'impose pas. C'était le cas de la 5e depuis 80 ans. Bien. Là, le système l'oblige. Et le seul jeu des extrêmes, c'est de se dire, on va obliger un président de la République que rien n'oblige à démissionner, qui a été élu par les Français. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais qui a été élu pour 5 ans, et on va bordéliser le pays pour essayer de provoquer. Mais c'est totalement irresponsable. Et encore une fois, le projet de budget qui était présenté était bon sur le logement, il était beaucoup moins bon sur d'autres domaines, mais Est-ce qu'un pays, est-ce que la sixième puissance mondiale peut se permettre de ne pas avoir de budget? Est-ce que on peut se permettre, quand on parle, tout ce qui était prévu pour les agriculteurs, tout ce qui était prévu pour le logement qui est repoussé, tous les crédits de droit commun pour les collectivités, on a beaucoup parlé des collectivités, les fonds verts, les aides aux constructions de projets, les DETR, etc. Tout ce qui fait que sans ces subventions de l'État, les collectivités ne construisent pas les écoles, ne refont pas les routes, ne rénovent pas les bâtiments, tout ça, ça va être bloqué. On va prendre entre 3 à 4 mois de retard le temps qu'une nouvelle loi soit peut-être bloquée. Moi, j'espère, je ne suis pas certain, malheureusement, mais j'espère que nos élus nationaux récupéreront un peu de sérénité. Moi, j'avais cette semaine les premiers repas de mes personnes âgées à Mennecy. J'ai vu 400 personnes. Et quelles que soient les sensibilités politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre ou des extrêmes, personne ne comprend cette situation. Ça donne une image qui est déplorable. Du politique. Déplorable.
Est-ce que, bien évidemment, alors, vous n'êtes pas macroniste, on peut le dire?
Je n'ai jamais été candidat macroniste. Mon parti fait aujourd'hui partie du socle commun.
Je vais préciser. Vous n'êtes pas macroniste. Il y a quand même, normalement, il y a un pilote dans l'avion et il y a une cause aux maux que nous vivons. MAUX. Il s'appelle Emmanuel Macron, qui est le président de la République, qui entame un second mandat et qui n'a fait qu'une somme d'erreurs, d'ailleurs, dont il s'estime totalement dédouané, avec un discours absolument surréaliste, et vous, les Français, vous n'avez pas compris ce que je faisais. Bon, à part quand même qu'il a été, finalement, très largement hué par une bonne partie de la population, ne serait-ce que par le résultat des urnes pour les élections européennes. On ne peut pas nier ce résultat, Jean-Philippe, on ne peut pas nier non plus le résultat des élections législatives après la dissolution de l'Assemblée. Dans toute institution politique de gouvernement démocratique, on doit, en fonction de la voix que certains ont, leur laisser une certaine place. N'a-t-on pas fait des erreurs, finalement, en déconsidérant des puissances politiques, même si on les combat, parce que, effectivement, vous l'avez dit, vous l'avez redit, ne font pas partie peut-être de ce que vous appelez, vous, l'arc républicain, mais qu'en même temps, notre institution impose peut-être de considérer c'est 10 ou 11 millions de personnes pour le RN et X pour la France insoumise. N'a-t-on pas commis, dans une certaine mesure, d'erreur avec un gouvernement, un président de la République, qui n'a pas saisi la tendance de la population et du peuple français et placé, bien malgré lui, un Michel Barnier plein de bonne volonté, armé de toutes les meilleures intentions, dont le sort était inévitablement condamné, bien évidemment. Alors, je ne veux pas dire qu'on va d'un côté comme de l'autre, mais entre nous, dire qu'on a un président de la République qui est seul et unique responsable de cette situation, ce n'est pas un gros mot de le dire. Et de dire qu'il n'a plus la légitimité en tant que président de la République, ce n'est pas un gros mot non plus de le dire.
Dans une situation...
Je ne veux pas vous faire dire que Macron
non,
est
mais,
pas bon.
Mais non, mais dans une situation de blocage, chacun a une part de responsabilité. Et le président de la République a sa part de responsabilité.
On en est arrivé là. Pour ça.
Le président de la République a sa part de responsabilité dans la situation actuelle. Après, dans un pays, dans une démocratie quelle qu'elle soit, sauf est-ce qu'il y ait un mandat impératif avec une cause de rejet, vous êtes élu pour une durée. Et il est élu, effectivement, rien ne peut l'obliger à démissionner. Partant de là, ça veut dire que le rôle des partis et des parlementaires, c'est d'arriver à trouver les moyens pour fonctionner. Et moi, ce que je déplore aujourd'hui, c'est que ces parlementaires ne se parlent pas. Alors, vous parliez, qu'est-ce qu'il faut faire des 11 millions d'électeurs. La question, c'est pas les 11 millions d'électeurs. Non, mais... J'ose espérer que le président, les parlementaires, quels qu'ils soient, les ministres, quels qu'ils soient, travaillent pour tous les Français. Enfin, d'ailleurs, maintenant, on nous sort la question de gouvernement d'intérêt général. Moi, je sais pas ce que c'est. Pour moi, tous les gouvernements sont d'intérêt généraux. Enfin, un gouvernement qui est d'intérêt catégoriel, oui, il n'a rien à faire, oui, il n'a rien à voir. Mais la question est de savoir jusqu'où est-ce qu'il y a une négociation avec des représentants politiques qui, quand ils ont voté la motion de censure et le blocage du budget, pour certains ont trahi leurs électeurs. Parce qu'aller demander dans la France rurale et agricole le sentiment d'agriculteurs qui parfois ont pu voter pour des candidats d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui retrouvent à avoir toutes les mesures qu'ils attendaient qui sont bloquées. Bon, moi, ce que je déplore aujourd'hui, contrairement à l'ensemble des grandes démocraties occidentales, c'est qu'on ne soit pas capable, en dehors, mais de part et d'autre, majorité, opposition, qu'elle soit relative ou absolue, de parler avec les autres, d'arriver à des compromis. Effectivement, un compromis, c'est pas un mot, c'est pas un mot sale. Un compromis, c'est juste pouvoir faire avancer les choses, éviter de bloquer la machine.
Jean-Philippe, répondez à ma question. Il y a 140 sièges pour le RN. Il y en a, j'ai pas exactement le nombre pour la France Insoumise. C'est une force politique.
Mais bien sûr qu'il faut parler avec eux.
Je vous pose la question en amont. Les a-t-on considérés ? Je prends par exemple la composition des commissions. Juste ça.
Sur la composition des commissions, la France Insoumise n'a pas été...
Non, je ne parle pas de la France Insoumise. Je parle de la par exemple.
Il y a deux choses différentes. Oui. Sur la composition du bureau de l'Assemblée des commissions, la gauche, y compris majoritaire au niveau du NFP, oui, et la France Insoumise, oui, est extrêmement bien représentée. Oui. Concernant, quand on prend la façon dont ça s'est déroulé, le RN a aussi joué le jeu lui-même de se mettre hors course en allant voter pour des députés de la France Insoumise plutôt qu'en étant dans une logique de représentation. Parce qu'il y a quand même eu un jeu de manipulation lors de l'établissement du bureau par le Rassemblement National pour dire on est ostracisé. Là où je vous rejoins, par contre, c'est que le rôle d'une majorité, a fortiori quand elle est relative, par rapport à ses oppositions, qu'ils les aiment ou qu'ils ne les aiment pas, qu'ils s'appellent LFI ou qu'ils s'appellent Rassemblement National ou UDR de Ciotti, c'est d'ouvrir des ponts, d'ouvrir des discussions, d'arriver à parler. Parce que quand vous êtes élu de la République, bah vous êtes en situation de prendre des décisions et vous devez parler. Mais le rôle...
C'est la preuve qu'on aurait pu désamorcer.
Excusez-moi, il faut aller au bout. Le rôle des oppositions, c'est d'accepter de discuter. Parce qu'aujourd'hui, on a deux oppositions, côté LFI et côté Rassemblement National, qui refusent toute discussion. Comme Madame Panot...
RN discutait. Pardonnez-moi. Il y a eu une discussion. Je ne parle pas du gouvernement Barnier. Je parle de ce qui s'est produit avant et dans le déroulé du gouvernement Barnier. Il n'y avait pas, il y a trois mois, à la nomination du gouvernement Barnier, une intention velléitaire anticipée de vouloir le faire tomber avec une motion de censure. Rappelez-vous.
Oui, entre-temps, il y a eu le procès de Marine Le Pen, ce qui a échappé à personne. Et je pense que les réquisitions du procès de Marine Le Pen font que l'approche de la discussion du Front National, sachant qu'elle peut être inéligible au mois de mars, a un petit peu évolué. Mais vous savez, la responsabilité pour une majorité, y compris relative, c'est de parler. La responsabilité pour une opposition, c'est aussi de parler.
D'accord.
Et quand ni l'un ni l'autre ne veulent le faire, comme Madame Panot, hier, avant même la connaissance d'un éventuel Premier ministre, encore moins d'un gouvernement et d'une ligne politique, dit que les Insoumis déposeront une motion de censure et que ceux qui, à gauche, ne la voteraient pas seraient quasiment considérés comme des sociotraîtres, pour reprendre une expression d'une autre époque, et seraient en collusion avec le président de la République et donc seraient soumis à des sanctions de la part de la France Insoumise, c'est quoi ? C'est le refus de discuter. Ce qui rend dingue les Français aujourd'hui, moi, quand je suis dans ma commune, pouvait être, quelle que soit votre sensibilité, c'est de vous rendre compte que vous avez élu des gens qui refusent de travailler ensemble. On les a pas élus pour qu'ils s'aiment.
On les a pas élus pour qu'ils partent en vacances ensemble.
On les a élus pour qu'ils exercent une fonction.
Jean-Philippe.
Exercer une fonction, c'est accepter de se parler.
Jean-Philippe, c'est pas bon signe.
Non, c'est pas bon signe. Non, on est dans une société qui est fracturée. Non,
mais vous avez raison. Vous êtes pragmatique, de toute façon. Vous avez raison, mais c'est pas bon signe. Qu'est-ce qui va se passer ? On sait que les 30 mois qui viennent, Macron ne démissionnera pas, malheureusement.
Comment on va sortir de là ?
Constitutionnellement parlant, on ne peut même pas dissoudre l'Assemblée avant un an.
Il peut dissoudre au mois de juin, mais dissoudre, y compris beaucoup de gens vous disent, de toute façon, il faut attendre la possibilité.
Il a d'ailleurs annoncé, le président de la République, qu'il ne le ferait pas une seconde fois. Bon.
Alors, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'une dissolution donnerait une majorité ?
Non, mais ça veut dire quoi ? On est dans la merde jusqu'en 2027 ?
Est-ce qu'une dissolution. Si on est incapable de changer nos logiciels,
qu'est-ce qui va se passer ?
Qu'on garde des partis politiques qui refusent de se parler les uns aux autres, oui, on va être dans une situation extrêmement compliquée pour le pays. Et moi, ce que je trouve atterrant, affolant, effroyable, c'est... Encore une fois, ce n'est pas question de vendre son âme à des idées qu'on n'a pas, ce n'est pas question de baisser pavillon, c'est juste question de ne pas bloquer le pays, d'arriver à trouver des voies, des accords à minima. C'est ce qui se fait partout. Quand en Allemagne, vous avez des coalitions parfois avec des Grünen et des libéraux qui n'ont strictement rien à voir ensemble, ils arrivent à
le faire.
Vous allez en Italie, vous allez dans n'importe quel pays du monde, on arrive quand la situation l'oblige. c'est pas systématique, mais quand la situation l'oblige, à avoir des opposés qui arrivent à se mettre d'accord, pas sur tout, mais sur un minimum, pour gouverner ensemble pendant un temps donné. C'est ce qu'on est devenu incapable de faire dans ce pays. Et très honnêtement, moi vraiment, encore une fois, je suis maire, je passe mon temps sur le terrain à voir des gens, quelle que soit leur sensibilité, qu'ils aient voté Le Pen, Mélenchon, Macron ou qui vous voulez, moi je vois des gens qui sont atterrés par le spectacle qui est donné par la représentation nationale, toute sensibilité confondue, où les élus, les partis devraient faire preuve de responsabilité, ils sont aujourd'hui responsables.
Dernière question. Il faudra bien sortir bien évidemment de là. Alors, c'est pas du pessimisme, mais on sait que constitutionnellement parlant, on arrive au bord de l'exercice, au bout de l'exercice. C'est arrivé 4 fois dans l'histoire de France depuis 1812, des changements de régime de cette nature-là. Et toujours, ce qui a précédé, il y a un dénominateur commun, hein, c'est le chaos. Le chaos algérois, de la guerre de ce qui s'est appelé ensuite la guerre d'Algérie, mais à l'époque c'était les problèmes de troubles en Algérie, qui était un département français, avec la chute du gouvernement Fimelin, qui a appelé à la rescousse avec le président de la République, le général de Gaulle, dont on se rappelle assez peu. C'est dommage d'ailleurs qu'on soit si éloigné de l'histoire, s'est fait octroyer, rappelez-vous, les pleins pouvoirs pendant 6 mois. On ne se souvient pas, mais il y a eu un congrès qui lui a accordé au plein pouvoir. Ça rappelle de l'histoire du côté de l'Allemagne aussi, les pleins pouvoirs octroyés par un parlement. Cette fameuse conférence de presse du général de Gaulle, où on lui posait la question, qui disait « Comment voulez-vous qu'à 67 ans, je me transforme en dictateur ? Les libertés publiques, je les ai rétablies. » Vous vous rappelez de ce passage extraordinaire. Un grand homme, bien évidemment, qui était au dessein de la France. On a tous compris que j'aimais beaucoup le général de Gaulle, c'est clair. Mais ce que je me dis, c'est que... Alors, vous avez l'habitude, vous êtes un homme politique. Est-ce qu'on pourrait être objectivement au bord d'un changement de régime ? Très franchement, j'ai beaucoup lu sur la question, j'ai beaucoup écouté. On a l'impression, Jean-Philippe, qu'on a pu penser que notre 5e République était inamovible, intouchable, et que ça allait durer l'éternité, que la prospérité était infinie. On se rend compte, en fait, des limites de cette 5e République, qui a été la plus stable de toutes les républiques depuis la Première République. Question ? Pouvons-nous basculer dans quelque chose dont personne ne peut prévoir l'issue et d'ailleurs dont de rien de bon n'en sortira ?
Alors, la première chose, pour vous répondre, moi je ne crois que rien n'est éternel. Première chose.
Vous êtes d'accord.
Et deuxième chose, le changement, ce n'est pas forcément un moins, ça peut être des opportunités nouvelles. La Ve République a donné à la France un régime ultra stable,
oui,
mais basé,
oui,
sur un fait majoritaire oppressant pour les oppositions. Ce qui donne auprès 80 ans de Ve République, la situation actuelle, les oppositions s'opposent par principe et les majorités décident par principe et personne ne se parle plus. Et dans un monde qui a évolué extrêmement fortement, on irait aujourd'hui vers une réflexion de 6e République ou à défaut de réformes lourdes de la 5e République. Enfin, on est sur le pays qui a le système le plus... qui est censé être un système parlementaire, constitutionnellement parlant, qui est le système le plus présidentiel au monde, oui, ouais, qui est un hyper-présidentialisme, puisque d'ailleurs, le président n'est pas responsable. Aux États-Unis, le président a moins de pouvoir que le président français, stricto sensu, et en plus, il est responsable devant le Congrès. Ce n'est pas le cas en France, et je pense qu'on touche la limite de l'exercice.
D'accord. Je suis d'accord.
Mais donc, le changement ne veut pas dire le chaos.
Donc vous répondez quelque part à ma question, ça me rassure. Non mais ça me rassure parce que je ne suis pas le seul à avoir une certaine forme de pessimisme ambiant sur les bouleversements institutionnels de notre pays, dont on risque l'explosion,
c'est...
bien évidemment.
Parce que c'est encore une fois, moi, pour moi, un changement institutionnel, un changement de pays, ce n'est pas forcément
mais dans,
un mal.
Dans quelle
c'est...
douleur ça peut se faire parce que, non mais attendez, on sera peut-être rattrapé par la patrouille et on aura peut-être des Français qui vont siffler la fin de la partie. On se rappelle les gilets jaunes. Ok, à mon avis, c'est plutôt un ersatz de ce qui pourrait se produire. Et la France a su le faire. On a su descendre dans les rues, rappelez-vous. Rappelez-vous la sédition des généraux à Oran, avec la naissance, effectivement, de l'OAS, par exemple. Mais je peux vous parler, effectivement, aussi de 1871. Je peux vous parler également de ce qui s'est passé avec la chute de la monarchie de Juillet entre 1931 et 1848. La France... c'est quelque chose qui est très intéressant, hein, comme dénominateur commun, d'accoucher de régimes qui ont toujours été plutôt bons pour le pays, mais toujours par la précédence d'un chaos absolu. Est-ce qu'on n'est pas capable dans ce pays de se réformer autrement qu'en se tapant sur la gueule, en ne se parlant pas, comme vous disiez?
Moi, je suis convaincu qu'on peut faire évoluer un système sans partir d'un drame. Je pense que le système a besoin d'évoluer.
Vous y croyez?
Vous voyez, moi, je partage l'idée d'une 6e République, pas forcément la même que celle de Jean-Luc Mélenchon, mais je partage l'idée d'une 6e République et d'un besoin d'évolution de nos institutions.
Vous avez entendu ça, les amis? C'est un scoop, Jean-Philippe Bigouin-Clément, favorable à la naissance d'une 6e République. Mais pourquoi pas? Parce que, de toute façon, vous l'avez dit, finalement, la démocratie, c'est un organisme vivant qui peut avoir sa durée de vie et muter, effectivement, comme vous le disiez très justement, parce qu'une chose que vous avez dite, c'est la transformation du monde et qui est allée à une vitesse phénoménale, et les institutions de la 5e République n'ont pas fonctionné. Je prends simplement l'omnipouvoir de l'administration centrale, qui nous casse les bonbons avec le ZAN, avec la norme, qui vous empêche, vous les maires, d'avoir des relais de croissance et des relais. Je peux vous dire que j'ai eu votre collègue Vigier tout à l'heure, je peux vous dire qu'il a tapé sévère sur l'administration centrale. On se croirait vraiment dans un film de Terry Gilliam. Vous savez, c'est Brésil, dans une certaine mesure. Bon, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau, Jean-Philippe Dugoin-Clément, président de l'établissement public Conseil d'Île-de-France, maire de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France en charge de logement et président également de Grand Paris Aménagement. Merci. On vous souhaite un excellent CIMI et on se retrouve demain matin dès 9h30 à l'antenne, bien évidemment.
Le CIMI du 10 au 12 décembre 2024 au Palais des Congrès de Paris en partenariat avec Bâtisanté, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.